Il est midi sur Radio Campus Tours. Chers auditeurs, bienvenue dans la Méridienne confinée. Je vous espère en bonne santé et pour vous apporter un peu de beauté, je vous propose ce premier épisode du Printemps des Poètes confinés. En effet, vous avez été nombreux à m'envoyer poèmes, slams, chansons et parfois même vos propres créations. Et je peux dès maintenant annoncer qu'il y aura plusieurs émissions faites de vos poésies. Je vous invite évidemment à continuer de m'en envoyer à melissa@radiocampustour.com. Et si vous n'avez pas même un smartphone pour vous enregistrer, vous pouvez m'envoyer le texte que je le lise. Aujourd'hui, vous entendrez Daniel Bekdad et Mathilde Marson, Guillaume Singal, Carla Siméon, Solène Berger, Nadia Matraque, Axel Glay, Guillaume Virentin, Sébastien Russo, Madeleine Ardouin, Jean-Pierre Barbossa, Machaël, Léana Vallée, Guillaume Haddad, Sylvaine Vielnotte et François Bonnefond. Bonne écoute.
Extrait du recueil Gestuaire. Car du geste qui ne s'entend ni ne s'écrit, n'est-il pas juste de dire qu'il est pensée qui s'effile dans l'air, propos qui cogne le vide, ombre portée du néant. À devancer le mot, l'épouser s'entremettre, il s'impose en ses retombées. On l'oublie, c'est la toile qu'il crève. Chétif, maladroit, il désoblige, desserre la cause que j'entends. Démonstratif parfois, La faute au sud, si tu gesticules, veux-tu bien le retenir, ce bras? Il m'appartient en propre, à mon répertoire je l'emprunte. Le surjoue, au besoin, l'interrompt savamment. D'un doigt, on conduira à tout l'orchestre, et aux étoupes mettant le feu, on rendra plausible l'histoire. Infidèle, l'amant. Car d'un signe au ciel, qui sait ce que je sais, fera la pluie et le beau temps. Il est une signature qu'on parafourature. Son luxe, son parfum, aux quatre vents, on sème quand d'aventure la main d'elle-même s'éprend.
De chez moi, une rue très bourgeoise du centre historique de Tours, on ne voit pas grand-chose au confinement. Dans mon joli bâtiment du 18e avec moulure et parquet chevron, la plupart des voisins est parti, rejoignant les plus vertes contrées d'une résidence secondaire. D'un côté, un jardin bourgeonnant bordé d'élégants murs de pierre, sans vis-à-vis à part le clocher de l'église tradie de la rue des Minimes, entre le lycée Descartes et la préfecture. De l'autre côté, une rue avec des hôtels particuliers, un lycée privé huppé et quelques bureaux. Tout ça aussi c'est vide, et avec la fermeture de l'opéra et du théâtre tout proche, il n'y a plus trop de gens comme il faut qui passent, ni de lycéennes avec les cours d'écho dans leur sac longchamp. Il fait quand même beau, on entend les oiseaux alors on tient bon, on sait la jouer collectif. N'ayant plus trop de travail, tout en étant payé, j'ai le luxe de m'ennuyer mollement en piochant dans mes 2000 disques ou alors en jouant des standards des années 40 sur mon saxophone des années 30. Il y a un joli son qui tourne pas trop dans le salon. C'est idéal pour jouer des tempi lents. Quelle chance! J'ouvre parfois la fenêtre. Je sais être généreux de mon art. Parmi les quelques personnes qui passent dans la rue, sans compter les chats qui ont grand remplacé les badauds après quelques heures de confinement, il y a ceux qui travaillent. Il y a les flics qui utilisent cet axe secondaire pour rejoindre le commissariat depuis le quartier de la cathédrale, plus étudiant. Mais j'avoue que je m'en branle des flics. C'est pas malin et tout, mais c'est comme ça. Ou alors ceux de la brigade financière, à la rigueur. Il y a aussi à 6h30 quelques estafettes avec des dames seules, la quarantaine, d'origine immigrée, en uniforme bleu ciel et pressées qui viennent faire le ménage des cabinets de médecins et d'avocats qui parsèment la rue. Comme il n'y a plus de circulation, on entend les aspirateurs à travers les fenêtres ouvertes pour aérer avant que monsieur n'arrive. Il y a aussi les employés du petit supermarché bio qui sont là. L'ambiance a l'air sympa. Ils font des pauses clopes dans la ruelle qui part perpendiculairement à chez moi. Dans le magasin, ils se tutoient et ils se touchent les épaules en souriant quand ils doivent passer derrière une caisse, récupérer une étiquette pour les salons d'Alep à la découpe. Faudrait peut-être les ranger ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, Caroline ? Et puis, il y a les livreurs, ceux de la pharmacie, avec le Bluetooth vissé à l'oreille et le portable scotché sur l'avant-bras pour porter le carton boiron et faire signer en même temps la patronne. Il y a les livreurs du supermarché, ils arrivent toujours avant 6 heures, et ils attendent une heure garés serrés contre le mur où les gens du supermarché font la pause. Ils attendent 7 heures, et là ils se garent à cul du mini-dock de déchargement qui donne sur une descente de garage. C'est vite fait, c'est un petit supermarché. À 7h30, ils sont repartis. Enfin, il y a les livreurs qui viennent apporter tout et n'importe quoi commandé sur Internet. Chaussures, disques, livres, jouets, maquillage. Eux, ils ne rigolent pas. Ils sont speed. Le coffre est plein et après, faut ramener le camion au dépôt à Chambray et prendre la voiture pour rentrer à la maison. Bien sûr, il y a aussi tout ce que je ne vois pas dans ma rue. Celui qui abat les volailles à la chaîne pour le supermarché bio. Il y a le contremaître de la chaîne de production de paracétamol que vend la pharmacie par paquet de 12. Le piqueur et le packeur de chez Amazon qui manutentionnent fort. Les ouvriers de chez Arche qui font des chaussures en vrai EVA. Les secrétaires du service vente du fabricant de Javel, parfum Garrigue, qu'utilise la dame dans sa camionnette. Sans parler des routiers qui vont de dépôt en centre logistique. Que des gens qui gagnent deux fois moins que moi et qui, selon toute vraisemblance, vivront en moyenne 9 ans de moins que moi. Pour eux, pas de confinement ni de vacances consacrées aux loisirs créatifs entrecoupées d'un vague télétravail qui vient nuire au suivi des notifications Facebook. La saturation de vie de famille et de jeux de société, ce ne sera pas pour eux non plus. Les bourgeois planqués à l'arrière, sauf les médecins, ouf, l'honneur est sauf, et les prolos au front. À la guerre comme à la guerre, Emmanuel Macron avait raison.
Texte en quarantaine de Gauvin Cers. Musique Philippe Sard, Les choses de la vie. Partout, les chaises sont empilées. Partout, les rideaux sont tirés. Les salles de classe ressemblent toutes à ce qu'elles seront au mois d'août. Les paquets de pâtes italiennes ont déserté tous les rayons, comme s'il fallait qu'on se souvienne que la peur réveille les couillons. Excepté la bêtise humaine, nous voilà tous en quarantaine. Certains rallument la chaîne Hi-Fi, savourent un album en entier. Certaines ressortent le manuscrit qu'elles n'ont jamais pu achever. Les confinés relisent Prévert, les confinis se serrent la main. On a toujours besoin d'une guerre pour démasquer les êtres humains. Comme le cargo du capitaine, nous voilà tous en quarantaine. Les impatients trinquent à distance par vidéo interposée. Les solitaires matent à outrance n'importe quelle daube télévisée. S'il y a des concerts aux fenêtres et des coups de fil pour nos grands-mères, c'est qu'au bord du gouffre peuvent naître les plus beaux élans solidaires. Moi qui viens de passer la trentaine, je fais un saut en quarantaine. Les marchés s'effondrent un peu plus et les costards retroussent les manches. Il fallait au moins ce virus pour qu'il se soucie des blouses blanches. Comme la bataille est immédiate et malgré le manque de moyens, c'est le stéthoscope en cravate que les docteurs sauvent nos anciens. Il serait temps qu'on s'en souvienne quand prendra fin la quarantaine.
Titre « هل الحزن هو قدرنا » L'auteur Nadia Matrak. « هل الحزن هو قدرنا » ليت الحب يطيل أجلنا فيا قلب ما هو قدري فليت الذاكرة تمحي ذكرها أيعقل للمرء أن يعشق دون وصال وينتظر مهما طال المطال ويأكل الخيال عقولنا وننهمك بما داخل قلوبنا لنصبح كالراكدون في قبورنا فهل كل هذا من خيالي؟ وما الذي فعله الشوق بأحوالي لأكون من دائرة الضعفاء أحببتك من غير سؤال وما مضى قد مضى ولكن سيأتي من يداويني ويبلسم جرحي من ذكرها.
Voici un extrait de Le monde est rond de Gertrude Stein. 13. Une chaise sur la montagne. Quand les montagnes sont de vraies montagnes, elles sont bleues. Rose savait qu'elles étaient bleues et le bleu était sa couleur préférée. Elle savait qu'elles étaient bleues et qu'elles étaient lointaines ou proches comme la pluie s'approchait ou s'éloignait. La pluie s'approchait ou la pluie s'éloignait quand la pluie voulait. Aussi, Rose regardait et voyait, et mon Dieu, les montagnes étaient bleues. Et puis un jour, elle vit une montagne proche et tout fut clair. C'est ainsi que Rose sut quoi dire. Écoutez, les montagnes sont hautes, il y a un ciel là-haut, la pluie approche. Les montagnes sont claires, les montagnes sont bleues, c'est vrai, et une montagne, deux montagnes, trois montagnes ou quatre, quand il y a des montagnes, il y en a toujours plus. Même vue de la porte. C'est ce que Rose disait chaque jour quand elle passait par là. Rose allait à l'école là. Là étaient les montagnes et elles étaient bleues, mon Dieu, bleues, toutes bleues, doux, bleues, bleues, précieux, oui, bleues. Et Rose se mettait alors à penser. C'est drôle comment Rose pouvait toujours se mettre à penser. Elle disait à son père, « Bob, père, j'ai une plainte à déposer, mon chien Amour ne vient pas quand je l'appelle. » Rose était toujours en train de penser. Il est facile de penser quand vous vous appelez Rose. Personne ne s'est jamais appelé Bleu, personne, pourquoi pas. Rose n'a jamais pensé à cela. Rose pensait, elle pensait beaucoup, mais à cela, elle n'a jamais pensé. Mais les montagnes, oui, Rose pensait aux montagnes et au bleu quand il était sur les montagnes et aux plumes quand les nuages comme des plumes étaient sur les montagnes et aux oiseaux quand un petit oiseau et deux petits oiseaux et trois et quatre et six et sept et dix et dix-sept et trente ou quarante petits oiseaux voltigeaient et qu'un grand oiseau voltigeait et les petits oiseaux voltigeaient et volaient plus haut que le grand oiseau et qu'ils venaient à un, puis à deux, puis à cinq, puis à cinquante frapper la tête du grand oiseau. Et que lentement le grand oiseau tombait entre les montagnes et que les petits oiseaux rentraient tous chez eux. Les petits oiseaux rentrent tous chez eux quand ils ont fait fuir le grand oiseau. Comment pensait Rose quand elle pensait ? Rose s'arrondissait quand elle pensait à ses yeux, sa tête, sa bouche, ses mains. Elle s'arrondissait de partout quand elle pensait et pour se soulager d'entendre sa pensée, elle chantait. Elle chantait une chanson de la montagne. Elle chantait. Chère montagne, grande montagne, vraie montagne, bleue montagne, oui, montagne, haute montagne, toute montagne, ma montagne, je vais avec ma chaise venir te monter et une fois arrivée montagne, une fois arrivée je penserai, très haute montagne qui se soucie du ciel, oui montagne, non montagne, oui je viendrai. Elle eut les larmes aux yeux. Oui montagne, dit-elle, oui je viendrai. Et alors qu'elle regardait, elle vit qu'une montagne avait un sommet et que le sommet était une prairie et la prairie atteignait un point et sur le point, mais oui, sur le point, oui, Rose poserait une chaise et elle s'assiérait là, là et partout, elle verrait partout et s'assiérait sur cette chaise, oui, là. Et c'est ce qu'elle fit et c'est ainsi qu'elle le fit. Toute seule elle le fit. Elle et la chaise là, là, et il n'y avait pas de bleu là, non ma foi non, il y avait du vert là. Herbe, arbre et pierre sont verts, pas bleus, il n'y avait pas de bleu, voyons, mais le bleu était sa couleur préférée au fond.
Jean-Louis Boncœur, Les cornes des hôtes. Extrait du recueil Le berger m'a dit. Quand on trépasse la soixantaine et que la bricole allait dételer, faute de mieux, on aime à rappeler ses amours, et puis ses ferdaines. C'est comme ça que l'autre souhait, pertoué donc sa vieille, au pied des landiers, se revantait de ses amours anciennes. Ah, qui faisait. Dans mon jeune temps, texion du petit jeu, faut bien dire que j'étais là. Y avait pas pire. Crévin Dieu, dit Mélie, t'entends? Oh, j'en ont fait, dame, je peux le dire, des cocus. Peut-être au-dessus de 200. Mais la vieille, en brochetant sa laine, faisait semblant de pas sourier, et de l'avoir même pas sourcillé, ça les malissait, nous de père Twain, et y recommençait sous Nantienne. T'accoutes pas? Veux-tu m'accouter? Pourquoi que tu fais la sourde oreille? Bu! Je peux bien te le dire à Perzin. En termis 20 et 40 ans, 200 cocus que j'ai fait, ma vieille. C'est pas toi qu'elle n'aurait fait autant. 200 cocus, c'est pas disable. Qu'elle y répond, dame, c'est pas rien. Moi, j'ai été plus raisonnable. Des cocus, moi, j'en ai fait qu'un.
We have a liftoff and it's lighting up the area just about. like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. It is now clear of the tower.
Je rencontre les martiens sur la planète Mars.
Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет.
Good morning, dear Gordy. Good morning. au clair de la lune.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire ma
Sorry about that, guys, but today maybe
okay,
he's never...
Okay, the battery covers.
Est-ce que c'est cette personne qui fait là? La prophétie?
Oui, elle n'est plus très jeune.
Vous êtes vraiment très affecté par cet incident. Et sincèrement, je pense que vous devriez reprendre vos esprits, absorber un tranquillisant et essayer de faire le point. Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et irréfléchies ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. Un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois le 12 janvier de l'année 1992. Monsieur Langlais était mon instructeur. Il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Je peux vous la chanter.
Oh,
autour des cerises.
Enregistré avant votre départ de la Terre. Pour des raisons de sécurité de la plus haute importance, le contenu de cet exposé n'a été communiqué jusqu'ici qu'au superordinateur Karl à bord de votre vaisseau spatial. Maintenant que vous entrez dans l'orbite de Jupiter et que le reste de l'équipage a été réanimé, voici cet exposé.
Il y a un martien qui a une soucoupe volante et un omni, il descend sur la planète et puis il m'emmène dans sa soucoupe volante. Il m'emmène sur sa... là-haut, je suis parti, je m'en vais là-haut. Je risque pas de me tromper parce qu'il sait où qu'il habite. Est-ce qu'il y a des signes aussi? La comète Allée, la comète Talbot. Mais je sais pas si on la verra parce qu'il y en a une qui va passer en 2091.
Ah bah.
Oh là, ça va être juste.
C'est lointain là, oui.
Oh là,
c'est
je
lointain.
Crois que... Oui, mais si on n'est plus là, il y aura peut-être une autre génération. Et on dit que la Terre se réchauffe.
Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo.
Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé.
Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre?
On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer.
Pour son avenir, la masse assurant. I'm going to go to the hospital.
Dictionnaire de mots doux à trois syllabes et dans le désordre. Madeleine Ardouin. Embrasser. Embelli du cœur, se rassasier de tendresse contre corps serré. Embrasser. Les bouches embuées, souffles terrassés de plaisir, sérénade d'amour. Univers. Celui qui est un, également ivre de tout, peut n'être personne. Fantaisie. Regarder l'enfant, aimer courir dans les champs et la poésie. Ralenti. Virage en épingle, au triple galop l'engin tire par les cheveux. Patience. Un pas suivant l'autre, se tient pour ne pas tomber, puis il recommence.
Sur la terre de la veille, la foudre était pure au ruisseau, la vigne sustentait l'abeille, l'épaule levait le fardeau. Les routes flânaient, leur poussière avec les oiseaux s'envolait. Les pierres s'ajoutaient aux pierres, des mains utiles les aimaient. Du moins à chaque heure souffrante, un écho devait répéter, pour la solitude ignorante, un grêle devoir d'amitié. La violence était magique, l'homme quelquefois mourait. Mais à l'instant de l'agonie, un trait d'ambre scellait ses yeux. Les regrets, les basses portes ne sont que des inductions pour incliner nos illusions et rafraîchir nos peaux mortes. Ah, crions au vent qui nous porte, que c'est nous qui le soulevons. Sur la terre de tant d'efforts, l'avantage aux vaillants mensonges est la franche consolation.
Rien. Je n'entends rien. Je ne pense à rien. Mon seul but est de courir vers le rien. Je vois les gens qui me regardent sans rien comprendre à ce que je ressens. Il ne me reste rien. Pas d'amis, pas de vie. Tous mes amours ont disparu et mes souvenirs les ont suivis. Je laisserai rien se dresser à travers mon chemin. Je grandirai seul, sans l'aide de rien. Je ne pleurerai pas, je ne dirai rien. Ce que je ressens, je le garderai sur le cœur. La seule chose qui me reste est le rien.
Bonjour, donc c'est un texte dans le cadre du Printemps des Poètes que j'ai pu lire et qui s'associe à une exposition donc de Sylvaine Vielnot qui est posée normalement à l'espace Jacques Villeray, mais bon, fermée avec ce qui se passe. Cette exposition s'intitule « Les sauvages d'aujourd'hui » et ce texte vient des photos qui sont exposées. Je suis la vieille Europe, Amazone désarmée, fracturée, bombardée de devoirs et de lois. Il est la jeune Afrique, l'homme d'ailleurs qui enfile le vêtement d'ici, à jamais mal ajusté. Je suis la carcasse vide d'une splendeur à terre, je suis le portrait tiré à quatre épingles, duquel toute ride a été comblée d'acide. Visage repassé, lissé, plié au cordeau. Mon sourire est figé, inanimé, abîmé vraiment, je ne fais plus illusion qu'à moi-même. Je suis la vieille Europe décadente qui s'ignore, dormant à poings fermés sur les droits de mon homme. Je suis une ancienne princesse crispée sur ses caprices, qui lit dans les lignes de la main de son Africain son nouveau destin, celui auquel je le contrains, ici aussi, sur mon sol, sûr de moi, sous mon toit. Où sont mes frontières ? Il est la jeune Afrique déferlante vague de retour sur désinvestissement. Il s'égare sur tous les chemins sans issue de mon pays. Où est son visa? Mais au jeu du labyrinthe, il sera le plus fort car sa mort est derrière lui, peur vaincue, tandis que la mienne est droit devant, peur bleue. Oubliera-t-il ses repères ancestraux pour adopter le brutal de nos esprits? Vieille Europe, jeune Afrique, qui croche pied de l'un et mange poussière de l'autre, noire sueur, blanche conquête, rouge colère, à cran, en creux, fait croire à une jouissance finale, phallus dressé, dignité foulée, l'heure d'un partage noir sur blanc, sans cesse retardé. Nous sommes le fil tendu aux quatre vents d'un désir réciproque, le fantasme d'une terre commune qui berce le corps de son futur métissé. Vieille Europe, jeune Afrique, les racines se cultivent en toute saison. Et si vous lisez ici et là que le bouturage ne prendra pas, si vous entendez des mots de rejet, n'y prêtez aucune attention. Car au final, ce qui grandira sur cette terre d'Europe, ce sera toi, mon fils d'ailleurs, mon frère, mon homme. Ce qu'il y a en moi, c'est toi, ma sœur d'ailleurs, ma fille, ma mère. Et de nos miettes, nous ferons une belle histoire. Voilà, ce texte a été dit dans le cadre d'un spectacle qui se tenait autour de cette exposition qui avait eu lieu d'abord initialement en septembre à la Galerie Neuve au Sanitas.
Ce siècle avait 2 ans, de Victor Hugo. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon percé sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit, d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fût, ainsi qu'une chimère, abandonné de tous, excepté de sa mère, et que son cou, ployé comme un frêle roseau, fit faire, en même temps, sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effaçait de son livre, et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je vous dirai peut-être quelques jours, quelle épure que de soins, que de vœux, que d'amour, prodigués pour ma vie, en naissant condamnée, m'ont fait 2 fois l'enfant de ma mère obstinée. Ange qui, sur 3 fils attachés à ses pas, épandait son amour et ne mesurait pas. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. table toujours servie au paternel foyer. Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier. Je pourrais dire, un jour, lorsque la nuit douteuse fera parler les soirs ma vieillesse conteuse, comment ce haut destin de gloire et de terreur qui remuait le monde au pas de l'empereur, dans son souffle orageux, m'emportant sans défense, à tous les vents de l'air fit flotter mon enfance. Car, lorsque l'Aquilon bat ses flots palpitants, l'océan convulsif tourmente en même temps le navire à trois ponts qui tonne avec l'orage et la feuille échappée aux arbres du rivage. Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé, j'ai plus d'un souvenir profondément gravé, et l'on peut distinguer bien des choses passées dans ces plis de mon front que creusent mes pensées. Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux, tombé de lassitude au bout de tous ses vœux, pâlirait s'il voyait, comme un gouffre dans l'onde, mon âme où ma pensée habite comme un monde. Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai tenté, tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté, mon plus beau temps passé, sans espoir qu'il renaisse, les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse. Et quoiqu'encore à l'âge où l'avenir sourit, le livre de mon cœur à toute page écrit. Si parfois, de mon sein, s'envolent mes pensées, mes chansons par le monde en lambeaux dispersés, s'il me plaît de cacher l'amour et la douleur dans le coin d'un roman ironique et railleur, si j'ébranle la scène avec ma fantaisie, si j'entrechoque aux yeux d'une foule choisie d'autres hommes comme eux, vivant tous à la fois de mon souffle et parlant au peuple avec ma voix. Si ma tête, fournaise où mon esprit s'allume, jette le verre d'airain qui bouillonne et qui fume dans le rythme profond, moule mystérieux, d'où sort la strophe ouvrant ses ailes dans les cieux. C'est que l'amour, la tombe et la gloire et la vie, l'onde qui fuit par l'onde incessamment suivie, tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal, fait reluire et vibrer mon âme de cristal. Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j'adore mit au centre de tout comme un écho sonore. D'ailleurs, j'ai purement passé les jours mauvais, et je sais d'où je viens, si j'ignore où je vais. L'orage des parties, avec son vent de flamme, sans en altérer l'onde, a remué mon âme. Rien d'immonde en mon cœur, pas de limon impur, qui n'attendit qu'un vent pour en troubler l'azur. Après avoir chanté, j'écoute et je contemple, à l'empereur tombé, dressant dans l'ombre un temple, aimant la liberté pour ses fruits, pour ses fleurs, le trône pour son droit, le roi pour ses malheurs. Fidèle enfin au sang qu'ont versé dans ma veine mon père vieux soldat, ma mère vendéenne.
Premier paragraphe d'Océan Mer d'Alessandro Barrico. Sable, à perte de vue, entre les collines et la mer. La mer. Dans l'air froid d'un après-midi presque terminé, et béni par le vent qui souffle toujours du nord. La plage et la mer. Ce pourrait être la perfection. Image pour un œil divin. Monde qui est là. Et c'est tout. Muette existence de terre et d'eau. Œuvre exacte et achevée. Vérité. Vérité. Mais une fois encore, c'est le salvateur petit grain de l'homme qui vient enrayer le mécanisme de ce paradis. une ineptie qui suffit à elle seule pour suspendre tout le grand appareil de vérité inexorable. Un rien, mais planté là dans le sable, imperceptible accro dans la surface de la sainte icône, minuscule exception posée sur la perfection de la plage illimitée. À le voir de loin, ce n'est guère qu'un point noir. Au milieu du néant, le rien d'un homme et d'un chevalet de peinture. Le chevalet est amarré par de minces cordes à quatre pierres posées dans le sable. Il oscille imperceptiblement dans le vent qui souffle toujours du nord. L'homme porte des cuissardes et une grande veste de pêcheur. Il est debout, face à la mer, tournant entre ses doigts un fin pinceau. Sur le chevalet, une toile. Il est comme une sentinelle. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Dressé là pour défendre cette portion du monde contre la silencieuse invasion de la perfection. Fêlure infime qui désagrège la spectaculaire mise en scène de l'être. Parce qu'il en va toujours ainsi. La petite lueur d'un homme suffit pour blesser le repos de ce qui était à un doigt de devenir vérité et redevient alors, immédiatement, attente et interrogation. Par le simple et infini pouvoir de cet homme qui est fenêtre, lucarne, fente par où s'engouffrent à nouveau des torrents d'histoire, répertoire immense de ce qui pourrait être, déchirure sans fin, blessure merveilleuse, sentier foulé de milliers de pas où rien ne pourra plus être vrai, mais où tout sera.
Xion, théâtre jeunesse d'Hervé Blutch. Poème Les Soleils Noirs, auteur Louis-Émile Brop. Galaxie sans nom. Nous allons sans radio, mais oxygène encore. Je tiens la barre fière. Et vous, mes compagnons, déjà m'abandonnez en un tacite accord. Je suis le capitaine qui doit porter la faute d'une perte de vitesse, d'un arrêt du moteur. Comme si de ce vaisseau, vous n'étiez que les hôtes. L'erreur de calcul est notre ordinateur. Oh, comme j'en ai assez de vos figures qui respirent angoissantes la même attente que moi. Sur vos visages livides se lit mauvais augure, l'effroi, la peur du vide, le décompte des mois. La crainte des soleils noirs, maudites étoiles sans âme qui aspirent nos vaisseaux, les murs en cimetière, changent l'amour en haine et de l'eau font des flammes quand soudain la matière devient anti-matière. Hé, hey, quoi, cosmonautes ? N'êtes-vous pas des hommes ? Nous tiendrons jusqu'au bout et je vous veux joyeux. Même si l'étoile au loin qui lui est une Rome, a l'étrange couleur du royaume des cieux.
Fin de ce premier épisode du Printemps des Poètes confinés, que vous retrouverez en podcast sur notre site radiocampustour.com. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour de nouveaux poèmes, et je vous invite à nouveau à m'en envoyer par mail melissa@radiocampustour.com. Portez-vous bien, chantez, dansez, mais surtout restez chez vous.